Voix Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Retour aux activités normales au sein des administrations fédérales américaines après la signature par le président Donald Trump lundi du texte autorisant le financement de l'État fédéral américain jusqu'au 8 février, ce qui a mis formellement fin au shutdown, la paralysie partielle pendant 3 jours des services gouvernementaux. Peu avant la signature, le Congrès avait approuvé ce financement à la faveur d'un accord entre démocrates et républicains où les premiers ont reçu l'assurance des seconds d'un prochain débat sur l'avenir de jeunes migrants clandestins vivant aux États-Unis depuis l'enfance. Proche-Orient, le vice-président américain Mike Pence a annoncé l'ouverture avant fin 2019 de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. M. Pence s'est exprimé devant la Knesset, le Parlement israélien, malgré la colère des Palestiniens suite à la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Écoutez le point de vue sur la question de Marie-Cécile Nave, chercheuse auprès de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques à Paris, et auteur de « Trump, la revanche de l'homme blanc ».
Cette décision, elle est moins faite pour des raisons géopolitiques que pour des raisons de politique intérieure. C'est une décision qui obéit à une stratégie électorale de satisfaire les électeurs évangélistes qui ont voté pour lui à plus de 80% en novembre 2016, auxquels Mike Pence appartient, puisqu'il est un chrétien évangéliste. Et ce sont des gens qui ont une vision très millénariste de la politique étrangère, qui s'appuie sur les mythes fondateurs des États-Unis, comme quoi les États-Unis sont la deuxième terre promise après Israël. Avec Pence comme avec Trump, dans le discours incantatoire, dans la surenchère verbale, qui n'engage à rien, mais qui remet en cause les équilibres régionaux et qui participe, je crois, d'une stratégie du chaos à l'international pour apparaître comme un pays combatif qui ne se laisse pas dominer par les réalités locales, mais qui impose sa manière de voir les choses, tout en n'ayant à long terme aucune stratégie géopolitique sur la résolution du conflit israélo-palestinien.
Marie-Cécile Nave, chercheuse auprès de l'IRIS à Paris. Actualité africaine maintenant. En Afrique du Sud, le Congrès national africain au pouvoir a confirmé avoir discuté du départ anticipé du président Jacob Zuma. Cependant, aucune date butoir n'a été fixée. Abdourahmane Dia.
Le secrétaire général de l'ANC, S. Magashule, a précisé lors d'une conférence de presse que le sujet d'un éventuel départ anticipé du président Zuma était entre les mains des responsables. Il y aura des discussions entre les responsables du parti, le président Zuma et le président du parti Cyril Ramaphosa. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de décision prise pour renvoyer Jacob Zuma. « Donnez-nous du temps pour discuter de nos problèmes », a-t-il lancé aux journalistes. S. Magashule, lui-même impliqué dans des affaires de corruption, a aussi indiqué que l'ANC était décidé à regagner la légitimité morale et que le parti était entré dans une nouvelle période de renouvellement. Fin décembre, Jacob Zuma a été remplacé à la tête de son parti par l'actuel vice-président du pays, Cyril Ramaphosa, qui avait fait de la lutte contre la corruption son leitmotiv de campagne.
L'Internet toujours coupé en République démocratique du Congo après les marches de dimanche. Courriels, réseaux sociaux et SMS étaient indisponibles dans la capitale Kinshasa ce matin. Des services Internet ne fonctionnent pas non plus dans les grandes villes comme Lubumbashi, Kananga et Kisangani. Les autorités congolaises ont instruit les opérateurs de couper l'accès à Internet dans la nuit de samedi à dimanche, à la veille de marche contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Le ministre des Postes et Télécommunications, Emery Okundji, avait indiqué lundi soir à l'AFP que l'Internet serait rétabli dans les prochaines heures. RDC toujours, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, demande des enquêtes après la mort de 6 personnes dans des manifestations dans le pays. La secrétaire générale de la francophonie aussi a condamné l'usage de la force. Et l'annonciature apostolique à Kinshasa dit avoir répertorié des tirs à balles réels qui ont fait 6 morts et 60 blessés pendant les protestations. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé aux autorités des enquêtes crédibles après la répression des manifestations dimanche en RDC. Il appelle à traduire les responsables en justice et exhorte les forces de sécurité à faire preuve de retenue et au respect des lieux de culte. De son côté, Michael Jean, secrétaire général de l'OIF, a condamné les violences et demandé qu'elles ne restent pas impunies. Cependant, elle a réaffirmé que la francophonie va poursuivre son soutien aux préparatifs d'élection élections prévues pour le 23 décembre 2018. De leur côté, les autorités parlent de 2 morts et de 9 policiers blessés. Le pape François s'est inquiété dimanche d'un nouvel épisode sanglant dans cette crise politique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, les négociateurs de la paix dans le pool ont exhorté le gouvernement à lever les poursuites contre le pasteur Ntomi, chef de la rébellion Ninja, qui sévit dans cette région depuis avril 2016. Les participants aux pourparlers ont aussi demandé aux leaders rebelles de participer pleinement au retour de la paix dans le pays. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngusu.
Cette première phase des négociations directes entre le gouvernement et les éléments du pasteur Ntsumi a consisté à baliser le chemin pour la mise en œuvre de l'accord de paix signé en décembre dernier. Mais déjà, les 34 négociateurs ont souligné la nécessité de lever les poursuites contre le pasteur Ntsumi. Un extrait du communiqué publié à l'issue de ses travaux.
Il a été également retenu que l'implication du révérend pasteur Ntsumi est essentielle à la réussite de cette opération. À cette fin, la commission a proposé qu'il recouvre sa liberté de mouvement.
Dans le camp du pasteur Ntsumi, on note une réelle satisfaction de ce premier point marqué. Jean-Gustave Ntondo, représentant personnel du pasteur Ntsumi, a ces discussions.
Nous sommes satisfaits de la confiance qui va régner entre les deux parties. Nous avons demandé que tous les droits et toute la liberté du révérend pasteur Ntsumi lui soit restituée, on va dire. Donc, de ce point de vue-là, les choses sont claires.
L'Observatoire congolais des droits de l'homme attire l'attention de l'opinion nationale pour que les crimes commis pendant cette crise du pool ne soient pas impunis. Trésor Ndila Kende est son directeur exécutif.
Cet accord ne peut pas être durable s'il consacre l'impunité. Déjà, l'accord lui-même, dans son contenu, il a un contenu très pauvre, un contenu qui ferme les yeux sur toutes les exactions qui sont commises dans le département du Pool. Il n'y a pas que nous qui sont exprimés sur les violations des droits de l'homme dans le Pool. Vous vous souvenez qu'il y a un rapport conjoint entre les Nations Unies et le gouvernement qui pointe également des exactions dans le Pool.
Il faut des moyens financiers pour débuter la mise en œuvre de cet accord. Pour le colonel Pierre Mbongo, le chemin qui reste à parcourir est presque déjà connu.
Il reste maintenant à définir toutes les conditionnalités de sa mise en œuvre effective, notamment les conditions du ramassage des armes de guerre, du retour dans leur environnement familial de tous les ex-combattants qui étaient égarés ci et là. Naturellement, il s'agit aussi pour nous de redimensionner le dispositif sécuritaire dans le pool.
Dans le pool, on enregistre déjà la démobilisation de plusieurs ninjas actuellement cantonnés dans un centre de transit à Kinkala, Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Tchad, fin de la grève des transporteurs publics, mais pas avant que la police eût arrêté plus d'une centaine de personnes hier pour trouble à l'ordre public et destruction de biens, suite à cet arrêt de travail et à une manifestation de lycéens N'Djamena. Morgane Guiriet nous en dit plus.
Les transporteurs tchadiens ont décidé hier après-midi de lever leur mot d'ordre de grève. Nous allons reprendre les négociations avec le gouvernement jusqu'au 10 février au plus tard. Si rien ne bouge, la grève reprendra, a déclaré Abakar Daoud Adoum, secrétaire général du syndicat des transporteurs. Il a aussi annoncé la libération de 15 transporteurs qui avaient été interpellés hier. Les chauffeurs de taxi, de bus et les agences de voyage ont entamé ce débrayage hier pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Des lycéens ont suivi ce mouvement avant d'être dispersés par la police qui a annoncé l'arrestation de 143 personnes dont 64 élèves. Selon le porte-parole de la police, 10 véhicules ont été endommagés, dont 4 véhicules de la police, en marge de ces violentes manifestations. Des organisations de la société civile ont appelé une marche le jeudi 25 janvier pour protester contre les mesures d'austérité et la hausse du prix du carburant.
Et pour terminer, la légende sud-africaine du jazz, le trompettiste Youv Masekela, est décédé ce mardi à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer. C'est ce qu'a annoncé sa famille. Un baobab est tombé, a réagi le ministre sud-africain de la culture, Nati Ntetwa. Youv Masekela avait fui le régime de l'apartheid dans les années 1960 et n'était rentré dans son pays qu'après la libération en 1990 de Nelson Mandela, fer de lance de la lutte contre le racisme. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.